Bonjour et bienvenue en Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
À travers leur courrier, certains de nos auditeurs nous ont posé des questions sur la pratique du jeûne dans la vie chrétienne.
C'est pourquoi, durant la série de discussions que nous continuons aujourd'hui, nous découvrirons ce que la Bible nous enseigne à ce sujet. Je souhaite la bienvenue à Robert, notre invité, qui va nous aider dans nos discussions. Bonjour Robert.
Bonjour Yann, et bonjour à tous. La dernière fois, nous nous sommes penchés sur l'enseignement de l'Ancien Testament au sujet de la pratique du jeûne. Et aujourd'hui, à travers les écrits d'un prophète de l'Ancien Testament, nous allons découvrir qu'il est possible de jeûner pour de mauvais motifs. Écoutons à ce propos une citation du livre du prophète Ésaïe, chapitre 58, versets 3 à 11.
Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde? Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. Vous passez votre jeûne en procès et querelle et en frappant du poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce cela un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc et de vous étaler sur le sac et la cendre? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Éternel agrée? Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tout ce que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. Alors, comme l'aurore, jaillira ta lumière. Ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira « Je suis là ». Si, du milieu de toi, tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants, si tu donnes ton pain à celui qui a faim, et si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres, et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. Et l'Éternel sera ton guide constamment. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides, il te fortifiera et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables.
Merci Sandra. Robert, expliquez-nous le sens de ce texte.
Le prophète Ésaïe reprend les paroles moqueuses, chargées de mépris, que le peuple ne cessait de répéter. Car les gens disaient à Dieu, « Que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas ?» Nous apprenons ainsi que la pratique du jeûne devait être assez courante à cette époque.
Mais pourquoi ces gens jeûnaient-ils alors? Quelles étaient leurs motivations?
Il est difficile de le savoir avec précision. Toutefois, des prophètes comme Ésaïe et d'autres dénonçaient les fautes du peuple et annonçaient le jugement de Dieu. Alors, vraisemblablement, les gens pratiquaient le jeûne dans l'espoir d'échapper au jugement de Dieu. Peut-être, par la pratique du jeûne, croyaient-ils persuader Dieu d'avoir pitié d'eux et espéraient-ils ainsi recevoir son salut? Ou alors, voir le retour de la paix et de la prospérité dans leur pays? Évidemment, suite à de tels jeûnes, le peuple ne recevait aucune réponse favorable de Dieu. Et il se demandait par conséquent si cela valait la peine de continuer à jeûner.
Et quelle fut la réponse du prophète Ésaïe à ses reproches?
Ésaïe mit le doigt sur une contradiction présente dans la vie de ces gens. En pratiquant le jeûne, ils affichaient une certaine piété. Mais en réalité, il s'agissait d'une façade derrière laquelle ils dissimulaient des fautes gravissimes. Ces gens prétendaient être religieux, mais ils étaient en fait coupables de pratiques scandaleuses. Ils ne pouvaient donc obtenir ni la bénédiction de Dieu, ni sa faveur.
De quoi ces gens religieux étaient-ils coupables?
Le prophète, me semble-t-il, a dénoncé les riches et les puissants, qui affichait une façade respectable, mais qui, par derrière, opprimait ceux qui étaient vulnérables et pauvres afin de les exploiter, car en pratiquant ainsi l'injustice, ils s'enrichissaient aux dépens des autres.
Mais c'est très grave.
Effectivement. D'autant plus que la dernière fois, nous avons appris que le jeûne traduit la tristesse, le regret profond d'avoir commis des fautes graves. Alors, dans un tel contexte, le jeûne s'accompagne d'un engagement sincère à vouloir changer de comportement et à réparer ses torts.
Et de toute évidence, ces gens que le prophète dénonçait continuaient à s'enfoncer dans le péché, sans s'en soucier guère.
C'est exact, Yann. Et c'est pourquoi leur jeûne n'avait aucune valeur aux yeux de Dieu. Le prophète leur annonça ce que Dieu attendait d'eux. Ils devaient pratiquer la justice. Ils devaient aimer leur prochain. Ils devaient défendre le droit des pauvres, leur venir en aide.
Merci d'avoir si bien expliqué le contexte des paroles du prophète Ésaïe. Mais quelle en est la leçon pour aujourd'hui? Et en particulier, qu'apprenons-nous au sujet du jeûne?
Nous apprenons qu'il est possible de jeûner pour des raisons injustes et d'une façon qui est en horreur à l'Éternel. Je développerai d'ailleurs ce point la prochaine fois, lorsque je parlerai de l'enseignement de Jésus au sujet du jeûne. Notons toutefois dès à présent que tout acte de piété, tel que le jeûne inclus, n'a aucune valeur si la personne qui le pratique ne dispose pas d'un cœur sincère, ni si elle ne mène pas une vie juste. Autrement dit, ce n'est pas à travers le simple acte de jeûner que nous obtenons la faveur de Dieu. La pratique du jeûne ne mérite pas en soi une récompense de la part de Dieu. Le jeûne n'est pas un rituel magique qui va obliger Dieu à nous accorder tous nos désirs. De plus, la pratique d'actes de piété tels que le jeûne ne constitue pas une preuve de l'authenticité de la foi d'une personne. Nous pouvons tromper les autres et peut-être nous duper nous-mêmes. Toutefois, jamais nous ne parviendrons à tromper Dieu. Une foi authentique et sincère conduit toujours à une transformation progressive, mais puissante, de sa vie intérieure. Le jeûne, selon la Bible, est l'occasion de s'examiner sérieusement, l'occasion de reconnaître ses fautes devant Dieu, l'occasion aussi de prendre des engagements nouveaux afin de vivre à la lumière de sa parole. Vraiment, il est inutile de jeûner si nous refusons de marcher avec Dieu. Parfois, la pratique du jeûne peut devenir une source d'orgueil. On peut en arriver à se comparer aux autres et penser que l'on est mieux juste parce que on passe plus de temps dans le jeûne. Selon Ésaïe, nous ne pouvons pas mesurer la qualité de notre vie spirituelle ou de notre foi par le nombre de jours passés à jeûner. Ce qui est primordial aux yeux de Dieu, c'est de pratiquer la justice et l'intégrité, l'amour du prochain. Ce qui est essentiel, c'est de le craindre.
Merci Robert pour ces leçons importantes. Et comme vous l'avez déjà mentionné, la prochaine fois nous discuterons ensemble sur l'enseignement de Jésus au sujet du jeûne.
Merci Yann, et au revoir à tous.
Merci Robert. Nous continuons ces discussions avec une courte méditation biblique sur le thème de la prière.
Nous allons nous pencher sur une prière de l'apôtre Paul.
Celle qu'il adressa aux Éphésiens, chapitre 1, versets 17 à 19. Sandra va nous la lire. Puis notre invité, Étienne, nous fera part de ses réflexions.
Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent, et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui.
Les prières de l'apôtre Paul dévoilent ses priorités pour les chrétiens Elle nous enseigne aussi sur la façon dont nous pouvons prier les uns pour les autres. Lors de notre émission précédente, nous avons médité sur une prière au cours de laquelle Paul demandait à Dieu d'accorder aux croyants d'Éphèse une compréhension grandissante de l'amour de Christ. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une autre prière de l'apôtre Paul qu'il fait connaître à ces mêmes chrétiens d'Éphèse. Prière à travers laquelle il met cette fois-ci l'accent sur l'importance d'avoir conscience de l'espérance et de l'héritage que Dieu tient en réserve pour son peuple. Mais pourquoi cette espérance est-elle si importante pour notre foi et pour notre vie chrétienne? Parce qu'elle représente une puissante motivation qui va nous permettre de tenir ferme toutes les fois que nous serons assaillis par les épreuves et de rester fidèles face aux tentations. Prenons l'exemple de jeunes qui, à l'école ou à la fac, se préparent en vue de réussir à leurs examens. Travailler dur tous les jours pour étudier et réviser est pénible, car il faut assimiler beaucoup de connaissances. Et certains préféreraient plutôt sortir pour s'amuser. Toutefois, c'est en gardant la vision d'un avenir meilleur, grâce à l'obtention de diplômes, qu'il est possible de rester motivé et de persévérer dans ses études. La réussite aux examens, l'obtention de diplômes ou de formation ouvre la porte à des métiers plus rémunérateurs, à des carrières plus intéressantes. C'est cette perspective qui permet à celui qui étudie d'endurer les moments de découragement et le travail intense. De la même manière, le chrétien peut rencontrer des moments de découragement. Il peut même se demander si cela vaut la peine de suivre Jésus, surtout lorsque celui-ci nous demande de renoncer à nous-mêmes, ou bien qu'à cause de notre foi, nous rencontrons l'opposition et la persécution. C'est dans de telles circonstances qu'il est important de se souvenir de notre espérance, car elle nous fortifiera, elle nous aidera à tenir ferme, à demeurer fidèles et à persévérer. Mais quelle est donc cette espérance? Quel est l'héritage que Dieu tient en réserve pour les siens? Notre espérance est qu'un jour, nous serons délivrés à jamais de tous les maux et les malheurs de ce monde. Notre espérance est qu'un jour, nous ressusciterons d'entre les morts pour vivre éternellement dans la paix et la joie, la justice et la sécurité, dans un monde nouveau où il ne se trouvera ni larmes, ni souffrances et où la mort ne sera plus. Notre espérance est qu'un jour nous verrons Dieu face à face. Alors, nous le connaîtrons tel qu'il est, nous l'adorerons et nous le servirons comme jamais auparavant. Lorsque nous sommes émerveillés par cette espérance, nos afflictions présentes, comme l'exprime l'apôtre Paul, paraissent finalement peu de choses. Envers et contre tout, nous pouvons persévérer fidèlement dans notre marche avec le Seigneur. Prions donc les uns pour les autres, afin que nous puissions persévérer et nous saisir un jour de notre héritage éternel.
Merci Étienne pour ces exhortations enrichissantes. Et merci chers amis auditeurs pour votre écoute aujourd'hui.
En attendant de vous retrouver bientôt, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.